comme par exemple des petites graines qui, quand tu les plantes, ça fait comme des palmiers tout de suite.
Non, numéro 10, on ne peut pas tout régler par des potions. Il y a des choses immuables.
CO2, mon amour.
La nature a besoin de temps. Il faut des mois et des années pour que d'une petite graine, à force de patience, de soleil et d'eau, un bourgeon se développe.
Denis Chessot sur France Inter.
Ben c'est pas mal, ça, pour débuter, un petit extrait d'Astérix et Cléopâtre avec la voix de Claude Rich et puis aussi de Jamel. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite et qui, vous allez voir encore, tente de rapprocher les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec Guillaume Roux, aujourd'hui à la technique, nous avons préparé l'émission avec Elisa Mchin et Hélène Biziot la réalise. Et l'oursin, me direz-vous, hein? Et l'oursin? Ben, vous en parlez pas, ben, bien sûr. Alors, moi, je vais vous parler de celui qui a un bel accent méditerranéen et qui a élu domicile dans l'étang de Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer, succursale de Céveso, ville jumelée avec Air Liquide, Basel Polyophine, Kémoine, ExxonMobil, j'en passe. Donc, ses raffineries, son incinérateur, son industrie chimique. 17 usines qui, comme nous, ben, ont toutes besoin d'eau. Alors, pour se refroidir la tête, d'accord, mais c'est surtout 6 millions de mètres cubes d'eau chlorée qui nettoie les canalisations qui sont rejetées en milieu marin. Donc, on pompe dans l'étang, dans la mer, et on rajoute une dose de chlore, comme dans votre piscine, pour éviter de ramasser des algues, de la sargasse locale et des coquillages au passage. Et notre oursin, notre petit ours des mers, ben jusqu'à présent, son avenir consistait à mettre la clé sous la porte, et oui, à remettre son âme à Dieu, et à contracter une assurance obsèque. Eh ben, nos amis scientifiques nous disent, c'est fini, il ne meurt plus. Bon, certes, peut-être qu'ils grandissent un peu de travers, ils vont pas se présenter au concours de Miss France Oursin, mais ils vivent car ils mutent. Et oui, ils mutent, ils ont intégré le chlore. Oh, bonne mère, vous avez vu, peu cher, il n'y a pas que les Américains qui cultivent le super-héros. Et chez nous, il y a Brice de Nice. Et nous avons maintenant Super Picos de Fos, le roi des oursins, mutant dans les bouches du Rhône. Dame Nature a plus d'un tour dans son sac à malice en toile recyclée, on le sait. Et nos scientifiques du laboratoire de l'environnement d'Aix-Marseille, on les salue, se sont piqués les doigts pour éclaircir ce mystère. Et nous, tout grassouillet, un peu mal foutu, et ben votre chlore peu cher, et ben on vous le bouffe. Et oui, après, si vous humains, vous nous mangez, ah ben là, aujourd'hui, quand même, on répond de rien. Mais est-ce plus mauvais que d'avaler de l'écran empoisonné de complotisme, de populisme toute la journée? Ça, c'est pas, hein. Ça aussi, ça pique et ça détruit le cerveau. Et puis dans une actualité, on va dire plus large, le lac Michigan pris par les glaces, ours polaires chassés de leurs banquises, errant dans les décharges et les villes, l'Australie avec des inondations d'un côté, 49 degrés de l'autre, et les palmiers de Las Vegas recouverts de neige. Oui, vous savez, Las Vegas dans ce désert sans flotte, cette aberration écologique, faites vos jeux, rien ne va plus. Alors les jeunes savent que nous dansons au bord d'un volcan. Ils prennent le climat à bras-le-cœur, ils secouent leurs parents, grands-parents, les élus, ils boycottent des produits, ils défient, ils gueulent, ils ont raison. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, eh bien ça va pas se défaire dans 20 ans, loin de là. Alors changer, oui, ben justement, c'est ça qui fait peur. On est bien sous sa couette du temps printanier dont on se réjouit. Au lieu de s'interroger d'une telle douceur étrange fin février. Oursins, insectes qui dégagent à la vitesse de nos jouissances consommatrices et agricoles, même combat. Ah bah tenez. Bonjour François Lasserre.
Bonjour Denis.
Alors François Lasserre, vous êtes un insectologue, hein, c'est pas comme ça qu'on dit. Vous êtes entomologiste et vice-président de l'Office pour les insectes et de leur environnement. Vous allez intervenir donc tout à l'heure, mais voilà, est-ce que tout ça est un peu le résultat de nos exactions diverses et variées?
C'est sûr et certain. J'aime bien le mot insectologue parce que il est un peu moins technique qu'entomologiste et c'est vrai que le public connaît mal les insectes. Parce que les insectes, qu'est-ce que ça veut dire les insectes? Ils ont toutes une particularité, une diversité incroyable. Et du coup, insectologue, ça nous rapproche un peu de ces petits animaux qui nous entourent.
Alors, on va en parler donc avec vous, ce sera en fin d'émission. Nous allons partir dans les Alpes avec Frédéric Fougat et Christian Couloumi. On va partir aussi en Espagne pour voir comment se passe donc la transition. Et puis, là, tout de suite dans l'actualité, avec Michel Métek, qui est le directeur des réserves naturelles de France. On en a 347 aujourd'hui. Et la France, en fait, est un peu en panne de solutions pour la mise en œuvre de la transition, on va dire cette fois-ci écologique, pas énergétique, mais écologique, parce qu'on coupe les vivres à la biodiversité. Bonjour Michel Métek.
Bonjour Denis.
Alors Michel Mettet, en fait, vous allez parler au nom des réserves naturelles de France, mais aussi des 52 parcs régionaux de France, les conservatoires d'espaces naturels, les rivages de France. Alors ça représente quand même 20% du territoire, on va dire, qui a une gestion soucieuse de biodiversité hein, au sens large, avec bien sûr aussi donc les parcs nationaux. Seulement, il y a un léger problème financier. C'est-à-dire que l'on nous parle de sauvegarder la biodiversité, de protéger la biodiversité dite ordinaire. Et derrière, ça suit pas vraiment. Vous avez rencontré le ministre, Monsieur de Rugy, vous avez rencontré un certain nombre de personnes. Et derrière, on vous dit que c'est pas la priorité. Alors, comment faire, quoi? Quel est le constat?
Le constat, il est que sur, en gros, 120 millions d'euros que l'État consacre à la biodiversité, ils amputent 20 millions d'euros pour des problèmes budgétaires, des compensations liées aux dégâts des inondations dans l'eau. Enfin, on nous dit plein de choses. Et en fait, c'est 20 millions sur la biodiversité qui disparaissent. Presque 3 millions pour les réserves naturelles. Sur les espaces naturels, sur les plans d'action. Et alors, ce qui nous navre, c'est que le gouvernement, au mois de juillet, avant que Hulot s'en aille, adopte un plan national de biodiversité qui était fait pour 4 ans et avec 90 mesures, toutes plus formidables les unes que les autres, et puis à la première année budgétaire, on sabre le plan.
Alors, ça veut dire aussi, derrière cela, que cette fameuse biodiversité ordinaire, c'est celle-là aussi quand même qui est extrêmement menacée. Il y a vraiment des coins qui sont bien protégés, c'est le cas des réserves, c'est le cas des parcs nationaux, etc. Mais ça veut donc dire qu'elle va en prendre un coup, parce que il fallait aider quoi, les agriculteurs, qui quand même gèrent une grande partie du territoire, des zones forestières aussi, qui sont plus ou moins bien gérées.
Complètement. Il y a le plan, par exemple, le plan national dont je parlais, Action 21, passait d'une surface agricole labellisée agriculture biologique à 15% en 2022. Donc, une action comme celle-là, elle ne se fera pas. Évidemment, je ne parle pas de l'usage des glyphosates qui devait disparaître, du plan national d'action sur les cétacés qui devait être engagé en 2018. Enfin bon, tout ça ne se fera pas.
Qu'est-ce que l'on peut, on va dire, espérer maintenant? Parce que d'un côté, on a un discours, on vous dit, la biodiversité s'effondre pan par pan. Les insectes, on l'a bien compris, dégagent aussi, on va en reparler.
Comment faire? D'abord, protester, intervenir comme nous l'avons fait auprès du ministère, des parlementaires. Il y a une logique budgétaire actuelle qui est catastrophique, qui fait penser que les agences de l'eau ont plein d'argent et que en gros les acteurs de la biodiversité devraient taper sur les fonds d'une taxe qui est prélevée sur chaque habitant. Et en fait, il y a vraiment un délire d'économie budgétaire. En gros, ce sont ces Bercy qui commandent le budget du ministère de l'Environnement, c'est très clair. Et donc voilà, il y a une logique, il y a des logiques qui s'affrontent. En pleine année où on devrait agir pour la biodiversité, où on en parle beaucoup, nous ne faisons rien.
Et en même temps, nous avons des gens qui vont être tout à fait soulagés, ce sont les chasseurs, puisque donc le permis va passer de 400 à 200 euros, donc 1 million de chasseurs, vous multipliez par 200 euros, ça nous fait 20 millions.
Oui, enfin c'est en fait les 100 000 qui avaient le permis national sur le 1 million, le 100 000 multiplié par 200, ça fait en effet 20 millions d'euros, c'est-à-dire le budget en gros que l'État consacre aux réserves naturelles. Et alors là, c'est un cadeau parce que là, il n'y a pas de filet, hein, c'est l'agence de l'eau qui va payer en gros quoi. Oui. Alors la taxe de l'eau qui va payer en fait le cadeau fait aux chasseurs.
Bon, et donc la biodiversité passe gentiment à la trappe. Merci à vous en tout cas pour ce coup de gueule, Michel Mettet.
Merci Denis.
Et il faut pas désespérer. Ben non, pas du tout. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein, vous l'avez compris, le nerf de la guerre, il est là. Et dans quelques instants, bien, on va partir, on va se faire plaisir avec le plus beau pays du monde, ou ça dans le sanctuaire, avec Frédéric Fouja. On parlait des Alpes.
Ce n'est pas le revoir, ce dernier mot dans nos regards. Ne meurs pas en un soir, non, ce n'est pas ça le revoir. Ce n'est qu'une fin du monde, une longue maladie sans mémoire. Tout s'est écrit dans nos ombres, nous n'avons pas voulu le voir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Nous avons tous le les mêmes prisons, les mêmes désirs à faire naître avant de tout faire disparaître aux couleurs tristes des maisons. Dans l'alcool caché sous l'évier, les silences lourds des dîners, nous avons tous ce vide immense, ce sourire pâle à maquiller. Mais ce n'est qu'une fin du monde qui s'écrit sans nous le dire. Sous les cigarettes qui flambent, tout le monde se cache pour vieillir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois, tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois, tout ce qui nous fume est dans tout.
Choisi par Thierry Dupin, notre programmateur sur France Inter dans C'est où de mon amour, c'était Radio Elvis, ce que nous fume. Bah, tu fumes bien ce que... Bon. Alors, on respire. Peut-être que vous êtes sur la route actuellement de la montagne, des Alpes. Bonjour Frédéric Fouja.
Bonjour Denis.
Alors Frédéric, vous êtes réalisateur, on vous doit entre autres Homo Sapiens, l'Odyssée de l'espèce. Et alors ce soir, on va se régaler avec le plus beau pays du monde, le Sanctuaire. Le Sanctuaire, j'ai donc nommé les Alpes, qui va passer donc à 21h sur France 2. Et juste en arrivant dans ce studio, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis la capitale là-bas? C'est dingue. Hein,
ah oui, j'arrive de Grenoble, là je me suis réveillé ce matin. C'était une beauté, mais ouais. La lumière d'hiver là, sur les montagnes. C'est somptueux.
Ah, c'est très beau. Entre la Chartreuse d'un côté, le Beldon et puis le massif du Vercors. Alors, lorsque l'on est latin, on se dit que albus, ça signifie blanc, que l'on prononçait alpus. Si on est gaulois, on se dit que ça voulait dire la haute montagne. Et vous, vous avez donc voulu mettre en avant et rendre hommage à cet arc alpin de 1200 km avec 8 pays au total, ce qui fait qu'on part de la Méditerranée, on remonte jusqu'au Danube. Et là, eh bien, ce que vous avez mis en avant, c'est vraiment la richesse, la biodiversité et l'aspect sauvage des choses. C'est qu'on n'a pas de remonte-pente, on n'a pas de retenue collinaire. Nos amis là partiront au ski, sont en train de nous écouter peut-être en ce moment. Mais en fait, ce que vous avez mis en avant, c'est peut-être ce que l'on ne voit pas forcément.
Mais oui, on est allé chercher des histoires un peu cachées. Oui. Et il faut dire, cet arc alpin, c'est un formidable refuge. Hein, parce que il y a un certain nombre d'espèces qui n'ont survécu que là, comme les loups, bien par sûr. Exemple. Les loups avaient totalement disparu de France au XXe siècle. Une petite population de loups avait survécu dans le sud, là, dans les Apennins. Et ils sont remontés par les Alpes et ils ont reconquis toute l'Europe grâce aux Alpes. Surtout, ce qui nous a amusé, c'est de s'intéresser à comment les stratégies de la vie permettaient de résister aux conditions extrêmes, infernales de la haute montagne. Donc, on est allé voir comment les animaux et les humains s'entraidaient. On a trouvé un phénomène qui est récemment trouvé, la ronde des oiseaux. La ronde des oiseaux, c'est une centaine de petits oiseaux des bassereaux, des mésanges et d'espèces très différentes qui, à la fin de l'hiver, ils n'ont plus rien à bouffer, et puis il y a des prédateurs partout, eh bien, ils vont se mettre en coalition, et puis ils vont se prévenir les uns les autres quand ils ont trouvé à bouffer, se rejoindre sur les arbres, et il y en a un qui fait la vigie, il y en a un qui bouffe ça, il y en a l'autre qui bouffe ça, et finalement, ils se rendent service. Ils peuvent rentrer chez eux le soir, le ventre plein, grâce à cette coopération. C'est une jolie histoire. Hein.
Alors Frédéric Fouja, moi ce que je vous propose, c'est justement de partir dans les Alpes avec un homme que vous connaissez bien, parce que vous écoutiez, vous écoutez C'est où de mon amour. Vous l'avez entendu d'abord là, donc c'est Christian Couloumi. Et Christian Couloumi, eh ben, il participe au film. Hein,
Tout à fait. C'est le premier homme que je suis allé voir quand j'ai démarré ce film, il y a 4 ans. Et je lui ai demandé de m'emmener pendant une semaine dans les Alpes, me faire découvrir ces Alpes. C'est un merveilleux connaisseur, il a une sensibilité extraordinaire. Il m'a inspiré ce film, je peux le dire.
On part dans la neige avec lui. Bonjour Christian Couloumi.
Bonjour Denis.
On est chez vous dans ce très beau département des Hautes-Alpes, on est dans ce parc national des Écrins, nous sommes là dans cet hiver. À votre montre Christian, on est à quelle altitude?
1825. Ouais, là on est déjà, c'est déjà assez haut pour l'hiver.
Et on va s'intéresser donc aux animaux parce que nous on a mis un pull vert, on a des chaussures qui vont bien, mais que font les animaux en fait en hiver ici?
Ils s'adaptent, ils résistent. Les générations ont réussi à contourner, à résister. Alors par exemple, les premiers, on va parler des hirondelles. Ouais. L'hiver arrive, plus d'insectes, il fait froid, direction l'Afrique. L'hiver, pour eux, c'est terminé. Les marmottes, une autre réponse. Hiver arrive, oulala, je dors dans mon trou. Ouais. À bientôt, au mois d'avril, on se revoit. Ouais. Pendant ce temps-là, je vais vivre au ralenti. Et puis, il y a ceux qui vont affronter directement l'hiver. Ouais. Et l'hiver le plus dur, c'est celui qui est tout en haut de la montagne. Et on pourrait prendre un exemple très symbolique, c'est le Lagopèze alpin. Le Lagopèze alpin, c'est une espèce de poule, de la taille d'un pigeon, qui, première adaptation, change de couleur. En même temps qu'il change les plumes, tous les oiseaux mûrs changent leurs plumes, eh bien les plumes de l'hiver sont blanches. Et l'oiseau se camoufle comme ça, est camouflé même inconsciemment peut-être, et il est à l'abri des prédateurs, plus ou moins quand même. Et puis, on l'appelle lagopède. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pied de lièvre, parce qu'il a des pattes très emplumées tout le long, qui lui procure une espèce d'isolant thermique, des moon boots, moon boots du lagopède. Puis il est capable de manger n'importe quoi.
Ah.
Et il mange les quatre végétaux qui restent sur une crête ventée. Tout est blanc autour de nous, là, vous avez vu?
Et pourtant, il les repère, là.
En fait, le vent souffle sur les crêtes et enlève la neige, brosse un peu tout ça.
C'est ça.
Mais alors, qu'est-ce qui reste? Il reste des brindilles, de myrtilles, du bois, pratiquement. Ah, il est capable, de la gopette, de digérer un petit peu le bois, d'en tirer le meilleur parti.
D'accord.
Et puis, quand il fait très, très mauvais, il se laisse ensevelir par la neige, et sous la neige, il est dans un igloo. Donc, tout va bien.
Alors, puisque vous parlez des animaux qui changent aussi de livrée, on a donc le lièvre variable. On a vu d'ailleurs effectivement une trace là il n'y a pas longtemps. Alors lui aussi, variable, pourquoi? Parce qu'il fait varier sa couleur.
Voilà, il se trouve que les lièvres blancs, il y a quelques milliers d'années, avaient plus de chance en hiver que les autres. Et ils se sont reproduits, c'est eux qui ont pris le dessus.
Ouais.
Et en altitude, chez nous dans les Alpes, mais également dans les pays nordiques, le lièvre variable change chaque année, chaque saison, de couleur. Au mois de, à peu près octobre, il commence à muer et il devient au début noir et blanc, poivre et sel, et puis tout blanc. Mmh. Parfois, il est tout blanc et la neige n'est pas encore tombée. Alors là, on ne voit que lui. Et son astuce se retourne contre lui. Tous ceux qui sont susceptibles de l'attaquer le voient très très bien.
Alors là, vous ne le voyez pas, mais on a des flocons qui nous tombent sur le... Sur le museau, quand même.
C'est l'hiver.
C'est l'hiver.
Ça va les aider aussi. Ils sont adaptés à ça. Ils vont se mettre dans un trou de neige, comme ça. Et ils vont signer. Ça aussi, c'est quelque chose que l'hiver nous apporte. Alors, à nous, les hommes, c'est que ces animaux, on ne les voit pas.
Oui.
Mais ils nous laissent un petit message sur la neige.
Une petite plume, là, comme ça. Ouais. Ils signent
leur
avec
leurs pas. Et on peut, si on s'intéresse à ça... Savoir ce qu'ils ont fait, en gros.
Hein.
Est-ce qu'ils ont sauté? Est-ce qu'ils ont marché? Est-ce qu'ils ont se sont arrêtés pour manger? On voit tout ça. Ils déposent de temps en temps de petites crottes, les lièvres. Et avec ça, eh bien, c'est des histoires qui sont racontées par la nature elle-même.
Ouais.
Il suffit de savoir lire. Il faut apprendre à lire la nature.
L'hermine aussi, hein, change de robe.
C'est le troisième qui change de couleur, parce que tous les animaux changent de poils et de plumes, enfin, c'est normal. Mais c'est ceux en montagne qui changent véritablement de couleur. Quoi. Il y a certaines belettes qui le font aussi, mais l'hermine, évidemment, elle garde le bout de la queue noire. Et puis ses deux yeux, évidemment, ils ne viennent pas blancs. Et la pointe de son museau.
Alors il y a ces animaux-là, mais enfin, il y a aussi tous les autres.
Eh bien, quand on est à ces attitudes-là, il n'y a pas tous les autres. Ils viennent faire un tour, mais ils s'en vont. Alors les oiseaux, pour eux, c'est facile, hein.
Ouais.
Ils ouvrent les ailes et ils font quelques kilomètres sans effort. C'est le cas, par exemple, de l'accenteur alpin, dont le nom indique où il habite. Il fait ce que nous, on appelle un petit peu une transhumance, c'est-à-dire un coup de mauvais temps, il descend dans la vallée. Puis, si ça dure, il va un petit peu plus loin. Et pour les Alpes, ils peuvent aller jusque dans les Calanques, dans le Midi, quoi, dans le sud de la France. Et puis, ils remontent dès que les conditions sont meilleures. Alors, comme lui, il y a les Nivrolles. Nivrolle.
Oui,
rien que le nom déjà.
La neige.
Évoque la neige.
Oui,
hein. Et il niche près de la neige, la Nivrolle. Elle niche très haut en altitude, comme l'accenteur alpin d'ailleurs. Et si les conditions sont dures, il redescend.
Mm-hmm.
Le Ticodrome, oiseau magnifique, il court sur les murs, sur les murailles. Et il lui aussi descend dans la vallée quand il fait mauvais.
Un qui est adapté aussi, c'est le chamois. Hein. On a 1, 2, 3, 4, ils sont pas très loin, 4 sous les yeux là.
La vie est dure pour eux, là.
Ouais.
Ce qu'ils vont manger, c'est pas très bon. Ça repousse pas derrière. Et il y en a pas beaucoup. Donc vous voyez, c'est une conjonction de facteurs. Et ils auraient besoin de beaucoup, puisqu'il va faire froid. Il va falloir qu'ils produisent de la chaleur. Et pour produire la chaleur, nous sommes des chaudières. Il faut manger, quoi. Et pour eux, ben, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Donc il faut éviter de les déranger, les regarder de loin. Mais ceux-là, ils sont peut-être un peu couillons, parce que si vous regardez bien, ils sont plein nord. Hein.
C'est vrai.
Moi, je serais chez moi, je serais de l'autre côté.
Alors, mon gars, là, pourquoi t'es pas au soleil, là?
Mais ils arrivent à passer l'hiver quand même. Alors, ils grattent avec le pied. Ben, tiens, il y en a qui le fait, là.
Ouais. Ah oui.
Ils grattent avec le pied, et puis ils trouvent un tout petit peu à manger comme ça.
D'accord.
Et, ouais. Et alors, ils arrivent au printemps, ils sont exténués, là.
Ah oui, dites donc, là, ils n'ont pas besoin de regarder des bouquins de régime alimentaire, eux.
Non, il faut le
dire. Ils sont perdus, là.
Là, ils sont diététiques, hein, l'hiver.
Ouais.
Il y a une conjonction de difficultés qui s'acharne sur les jours sans cours, donc peu de temps pour se nourrir. La nourriture, elle est peu abondante, elle ne se renouvelle pas. L'été, il ne pluie, l'herbe repousse, ce n'est pas le cas là. Donc c'est vraiment des conditions très très dures. Et la nuit, donc si le jour est court, évidemment la nuit est longue. Et la nuit, il fait froid. Et nous, on ne se rend pas compte de ça, parce que dès que le soleil commence à décliner, fondue savoyarde et tout va bien, quoi. Eux, la fondue savoyarde, c'est pas ça. Ils vont se trouver un endroit, ils vont se coucher, ils vont passer toute la nuit. Et le matin, il est loin, le matin. Là, il faut attendre 8h du matin pour que le soleil sorte. Et c'est là où il fait le plus froid. C'est là où le rayonnement nocturne nous a fait perdre toutes les calories. Et c'est ces minutes qui précèdent le lever du soleil, l'arrivée même du soleil sur nous. Il y a une espèce de chute brutale des températures avec un tout petit peu de vent. C'est terrible, alors. Je pense que ces animaux, évidemment, ils sont là depuis la nuit des temps, ils sont adaptés, ils savent faire, mais c'est quand même dur. Hein. Bravo, chapeau.
Bon, Christian, allez, on redescend doucement, parce que vous avez parlé de fondue, hein, je crois, c'est ça.
C'est ça.
Voilà, vous auriez pas dû, et ben voilà.
Ah oui, mais on va la partager quand même.
On va y aller, et on a une pensée pour ces animaux. Oui, retenez-moi, là,
parce que ça glisse, là. Ça va mal se terminer, l'histoire de la fondue, ça va être à l'hôpital, là,
je pense. Non, on va être bien, on va vous inquiétez pas.
On y va comme ça.
Voilà, on y va doucement. Et ça ira bien. À bientôt, Christian Colomé.
À bientôt, Denis.
Ça s'est bien terminé avec Christian Couloumi, donc Christian dans ses Hautes Alpes. Et alors c'est vrai que Frédéric Fougas, donc avec ce documentaire, ce film, Le plus beau pays du monde, Le Sanctuaire, ce soir sur France 2, donc consacré aux Alpes, on retrouve un certain nombre d'animaux qui ont été évoqués par Christian Couloumi. Vous avez quand même une louve en fil, j'allais dire conducteur, mais aussi en fil d'intelligence, hein, qui doit aller se poser ailleurs parce que donc elle a perdu son compagnon, elle va en retrouver donc un autre. Et puis l'entraide et la transmission sont très fortes. Et dans la transmission, nous découvrons une maman bouquetin avec son petit. Racontez-nous, parce que là, elle l'emmène, on se dit, dans un lieu mais complètement dingue, quoi.
Oui, alors ça, c'est un phénomène qui a à peu près 50 ans. Les bouquetins de cette région ont besoin de sel. Et tous les ans, les mamans qui ont un petit de quelques semaines partent avec leur petit. Elles font un voyage d'une journée ou deux. Et elles emmènent ce petit sur un barrage, une falaise verticale de 50 mètres. C'est le barrage du Cinghino, qui se trouve être en Italie, pas très loin de la France. Et le petit se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me retrouve là? Et il est sur cette falaise verticale, et on voit bien à ce moment-là qu'il lui-même s'étonne, mais il arrive à tenir debout. Et il arrive à naviguer, aller en haut, aller en bas. Et il apprend comme ça, effectivement, la verticalité. En réalité, si elle l'amène là, c'est pour des raisons presque de santé, puisque au milieu du barrage suintent des sels. Et il n'y a que sur ce barrage, dans cet endroit, qu'il y a des sels nécessaires à la survie des bouquetins. Et donc, tous les bouquetins du coin, il faut qu'ils passent par l'initiation du barrage pour aller se nourrir de sel. Le petit va s'en nourrir, il va lécher la pierre, il va se nourrir de sel, il va prendre ça. Ils vont repartir et puis tous les ans le petit reviendra.
C'est ça. Il reviendra. Et il transmettra lui-même
et
plus tard.
Et voilà, il transmettra. Bon, c'est plutôt les femelles, là, chez les bouquetins, c'est plutôt les femelles qui bossent.
Hein. Ah oui, les gars ils se tirent une fois qu'ils ont reproduit. Après,
l'éducation des enfants, c'est pas trop leur truc.
Ouais. Et alors sinon, d'une manière générale, c'est aussi l'entraide qui nous revoit à notre condition d'humain. Donc cette entraide qui est nécessaire, c'est-à-dire que dans les conditions extrêmes, on est obligé de faire avec l'autre. Quand les choses, on va dire, vont bien, ça va, on peut faire le cacou, etc. Bon. Et on le voit bien aujourd'hui qu'on est sur cette bascule-là, nous aussi, êtres humains. C'est-à-dire que si on ne fait pas ensemble sur cette planète, parce qu'on va pas aller sur Mars tout de suite, loin de là, et je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne nouvelle, bah, il va falloir quand même s'entraider, quoi.
Bah oui. Et alors, c'est très intéressant parce que Darwin l'avait trouvé, hein, ça, l'entraide comme force biologique importante, mais c'est passé à l'as parce que on a regardé finalement la compétition, c'est plus facile à voir. On a regardé les animaux, les êtres
vivants.
C'est à la
fois ce que le marxisme et le capitalisme ont récupéré. C'est-à-dire ils se sont dit, effectivement, c'est la loi du plus fort. Alors qu'en fait, non, c'est celui qui s'adapte.
C'est faux. La loi du plus fort, évidemment, elle existe dans certains milieux, elle existe, elle prévaut dans plein de milieux. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que plus les milieux sont complexes et difficiles, moins il y a à bouffer, moins il y a de richesses, eh bien, plus c'est pas le plus fort qui gagne. C'est le plus apte à coopérer. Ouais. Ça, c'est quand même une formidable leçon pour nous. C'est biologique, quoi. Dans les montagnes, c'est pas le plus fort. C'est celui qui, comme le bouquetin, avec leur garderie, les femelles bouquetins se mettent à plusieurs pour garder les petits. Voilà, ça c'est de l'entraide. Et ben, c'est sur ceux-là qui vont survivre et pas les plus forts.
Le plus beau pays du monde, c'est ce soir, le Sanctuaire, donc sur les Alpes, c'est sur France 2, c'est à 21h. Merci Frédéric Fouja, et à bientôt.
Merci Denis, je voulais en profiter pour te dire merci parce que c'est toi qui m'as présenté Christian Coulomy, il y a quelques années. J'ai fait deux plus beaux pays du monde avec lui, c'est un formidable conteur et je te remercie de cette rencontre.
Et c'est un ami maintenant commun. Voilà. Et on reste, ben oui, restez avec nous parce que c'est pas terminé sur France Inter et CO2 Mon Amour, on a encore deux autres sujets. Dans quelques instants, nous partons en Espagne avec François Lasserre et on reviendra sur nos insectes. Bel après-midi à tous. Myself, oui, c'était Parcels, un groupe australien qui a pas froid, hein, je vous l'avais dit, entre 40 et 49 degrés en ce moment, donc tout va bien. Allez, dans quelques instants, ça va être l'Espagne.
Je bois à la mère nature.
CO2, mon amour.
Aux collines odorantes.
Denis Chessou.
Je bois aux cigales, à la brise, aux roches millénaires.
Sur France Inter.
Alors après la Suède, on a déjà donc décortiqué un petit peu la Suède. Vamos, non pas à la Playa, mais en Espagne, près de 506 000 km², 49 millions d'habitants, 17 régions autonomes. Et la chaleur, on connaît, et la prise en compte du réchauffement est bien là. Nel Makarov.
Oui, en effet, il y a un véritable consensus social autour du changement climatique en Espagne. Cela est dû bien évidemment aux impacts du changement climatique en Espagne qui sont d'ores et déjà très visibles. Les impacts sont visibles bien sûr en France, mais en Espagne, c'est s'est accru. Il y a quand même 20% du territoire qui est en cours de désertification. Et il y a la question du stress hydrique qui menace véritablement l'Espagne. C'est-à-dire que d'ici 20 ans, il est possible que l'Espagne manque cruellement d'eau. Et à partir de là, la population est très sensible à la question du changement climatique parce que le changement climatique a un impact direct sur la vie quotidienne des Espagnols.
Aujourd'hui, certes, les habitants sont concernés, mais en ce qui concerne donc le gouvernement, avec l'arrivée de Pedro Sanchez, où en est-on ?
Il y a eu un changement assez radical entre Pedro Sanchez et l'ancien gouvernement conservateur de Mariano Rajoy, parce que l'arrivée de Pedro Sanchez a mis le climat comme une des priorités politiques en Espagne. Et notamment le choix de la ministre de l'Environnement, Teresa Ribera, qui est une activiste convaincue de la lutte contre le dérèglement climatique, montre que le changement climatique est devenu une des priorités, avec la volonté d'atteindre notamment 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050 et d'atteindre cette fameuse neutralité en gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc il y a des objectifs qui sont très élevés. Et par ailleurs, il se concrétise aussi dans des mesures qui sont assez ambitieuses, ou en tout cas qui remet l'Espagne un peu sur les rails de la transition énergétique.
Et là, on a vu, par exemple, la fin de la taxe sur le soleil. Ça, racontez-nous, ça concerne bien sûr les panneaux solaires.
Oui, tout à fait. Le gouvernement de Mariano Rajoy avait mis en place une taxe sur le soleil qui visait à pénaliser les ménages et les entreprises qui installaient en fait des panneaux solaires sur leurs toits, tout simplement parce qu'il fallait faire rentrer de l'argent dans les caisses en Espagne en plein milieu de la crise économique. Et cette taxe sur le soleil a freiné brutalement l'essor des énergies renouvelables dans le pays, alors même que l'Espagne a un potentiel incroyable d'énergie solaire au vu de sa situation. Et le gouvernement de Pedro Sanchez a suspendu cette fameuse taxe sur le soleil pour permettre aux ménages et aux entreprises maintenant d'investir, de développer les panneaux solaires sur leurs toits et de faire de l'autoconsommation, ce qui est un des modèles de développement des énergies renouvelables en Europe. Aujourd'hui, il n'y a que 1000 ménages en Espagne qui ont installé ce type d'autoconsommation sur leur toit, tandis qu'en Allemagne, on dépasse le million de ménages. Donc on voit vraiment qu'il y a énormément de choses à faire en Espagne. Et encore une fois, le potentiel est très très grand pour effectuer cette transition énergétique.
Ned Makarov, on n'est pas forcément au courant de tout. L'Espagne est quand même un pays extrêmement charbonneux encore aujourd'hui. 40% en ce qui concerne donc la production d'électricité.
Oui, tout à fait. Il reste 14 centrales à charbon en Espagne, principalement dans le nord et dans le sud de l'Espagne, en Asturie et en Andalousie. Et le gouvernement espagnol a acté la sortie du charbon d'ici 2030. Maintenant, c'est toute la question qui reste en suspens, c'est la question sociale. Comment accompagner les travailleurs de ce secteur d'activité qui reste un secteur très important? Comment faire en sorte que personne ne soit laissé sur le carreau suite à la fermeture des mines et des centrales à charbon? Et de ce point de vue-là, le gouvernement espagnol a été un peu novateur et pilote sur cette question en Europe parce qu'il a lancé un plan d'aide aux régions disons charbonnière en Espagne, qui vise à soutenir les travailleurs, à les aider à se reconvertir professionnellement dans d'autres métiers, dans des métiers d'avenir, et qui vise aussi à restaurer les écosystèmes dans les endroits où il y a des mines à charbon. Donc il y a un vrai plan d'aide financier, c'est-à-dire que le gouvernement est prêt à mettre de l'argent pour aider cette transition dans ces territoires et ne laisser personne sur le côté, enfin faire une transition qui soit à la fois ambitieuse écologiquement et juste socialement, ce qui est très important parce que les deux doivent aller de pair.
Nel, il y a donc le charbon, il y a aussi beaucoup de gaz. L'Espagne importe aussi pas mal de nucléaire français. Où en est-on aujourd'hui en ce qui concerne les énergies renouvelables? Donc on a bien vu que le solaire avait été donc entravé et donc va pouvoir avoir peut-être une espèce de renaissance, mais il y a aussi énormément d'éoliennes. Comment c'est accepté d'ailleurs les éoliennes là-bas?
Il y a une bonne acceptabilité de l'éolien en Espagne. C'est vrai que l'éolien a connu un boom incroyable ces dernières années, avant la crise économique en particulier. Parfois, il y a même des pics où l'éolien permet de fournir plus de 40% de l'électricité espagnole. Donc, c'est quand même un secteur qui est majeur, soutenu également par l'hydraulique, ce qui qui fait que en fait l'Espagne très rapidement pourrait atteindre un mix énergétique 100% renouvelable. C'est totalement faisable et souhaitable, et c'est vraiment l'ambition du gouvernement espagnol de faire une transition sans nucléaire et sans charbon et d'aller 100% renouvelable. Et de ce point de vue-là, l'éolien est vraiment un des piliers de cette transition énergétique.
Alors, on a 25%, on va le rappeler, on a 25% de l'électricité qui provient des énergies renouvelables. Et dans ces 25%, il y en a 20% qui proviennent des éoliennes, on a 16% qui provient de l'hydraulique. En France, nous, c'est autour de 13 à peu près. Et 3-4% pour l'énergie solaire. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir se développer demain?
Ben, clairement, l'éolien va continuer à se développer massivement, mais il y a un besoin énorme de rattrapage de l'énergie solaire en Espagne. Parce que c'est le deuxième plus gros potentiel d'Europe. Et au-delà des grandes centrales solaires qu'on peut connaître sur les territoires comme l'Andalousie, où il y a des grands espaces qui sont dédiés à l'énergie solaire, c'est vraiment un modèle de développement qui va pouvoir inclure un peu plus le citoyen et créer cette démocratie énergétique. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir installer des panneaux solaires sur leur toit, contribuer à la transition énergétique. Donc le solaire, c'est vraiment une filière d'avenir en Espagne, notamment le solaire pour les ménages et pour les entreprises.
Alors parlez-nous aussi quand même de la mobilité, c'est extrêmement important lorsque l'on parle de transition énergétique. Le ferroviaire est quand même très peu présent, c'est-à-dire qu'on a surtout développé les lignes à grande vitesse au détriment des petites lignes du quotidien.
Vous avez tout à fait raison, et c'est vraiment le point noir en Espagne, c'est la mobilité. 90% des déplacements des individus et du fret dépendent de la route, et l'Espagne a parié sur le tout routier ces dernières années avec le développement d'infrastructures routières très importantes. Cela crée une véritable dépendance de l'Espagne vis-à-vis des énergies fossiles et notamment l'importation de pétrole qui est très importante. Le transport, c'est quand même 30% des émissions de gaz à effet de serre en Espagne, donc c'est quelque chose de significatif.
Bah, c'est comme nous, hein. C'est à peu près comme nous.
C'est à peu près comme nous, en effet. Ça fait partie des secteurs où c'est le plus difficile pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'autant plus que vous l'avez souligné, le transport ferroviaire aujourd'hui est développé massivement sur les lignes à grande vitesse entre les grandes villes, mais très peu pour le transport du quotidien. Et c'est bien sûr là où on peut faire transiter le plus de personnes, et c'est là où on peut créer des alternatives pour les individus autoroutiers. Et malheureusement, ça n'a pas été les choix qui ont été faits dans les dernières décennies en Espagne. On a parié sur la voiture individuelle.
Parlez-nous aussi quand même des îles Baléares. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un territoire pilote.
Ah, c'est vraiment un territoire pilote sur la transition énergétique. Il y a deux jours, ils ont d'ailleurs passé ce qu'ils appellent une loi climatique sur les îles Baléares qui vise à se débarrasser du charbon. Aujourd'hui, le charbon, c'est une grosse majorité de la production électrique des îles Baléares. Et ces îles-là veulent se débarrasser du charbon, passer de 3% de renouvelables à 100% de renouvelables en 30 ans seulement. Donc vous imaginez l'effort considérable que ça peut créer, mais c'est un territoire pilote parce que il est rentré en conflit vis-à-vis du gouvernement de Mariano Rajoy, le gouvernement conservateur, sur la question du charbon. Aujourd'hui, les îles Baléares veulent bannir la voiture diesel dès 2025 et la voiture essence dès 2035. Donc on voit que c'est un territoire qui prend la lutte contre le dérèglement climatique vraiment comme un problème très sérieux, et aussi la lutte contre la pollution de l'air, parce que les voitures diesel émettent énormément de particules qui créent de la pollution de l'air sur les îles de Baléares. Et donc, il y avait véritablement un engouement dans ce territoire pour développer des alternatives de mobilité, des alternatives d'énergie avec les énergies renouvelables. Donc, c'est véritablement un territoire pilote, mais qui est souvent en confrontation avec le gouvernement central de Madrid, parce que du point de vue des compétences, c'est assez difficile de savoir qui doit décider sur quoi. Et de ce point de vue-là, c'est un peu toujours un problème en Espagne entre les régions autonomes d'un côté qui veulent aller plus loin sur la transition et le gouvernement de Madrid qui parfois bloque.
Nel Makarov, vous faites vraiment un boulot formidable, je tiens à le dire, avec le réseau Action Climat. Hein, donc, et vous intéressez donc à ces politiques européennes. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, particulièrement en Espagne?
Ce que je trouve intéressant en Espagne, c'est vraiment que le gouvernement a compris le potentiel d'emploi et des co-bénéfices de cette transition énergétique. Là, récemment, un rapport est sorti disant que sur le très court terme, l'Espagne pourrait créer plus de 200 000 emplois rien que dans les énergies renouvelables, sur le court terme, ce qui pourrait répondre à des problématique de chômage. Il faut rappeler que l'Espagne est touchée par un chômage qui est très important, 15% de la population environ est au chômage en Espagne.
Et beaucoup de jeunes aussi.
Et beaucoup de jeunes. Et la transition énergétique est une solution économique aussi pour soutenir les populations, pour les aider à accéder à l'emploi, mais aussi pour réduire la précarité énergétique quand on rénove les logements. Et ça, le gouvernement espagnol actuel, alors on verra s'il reste en place après les élections d'avril prochain, mais dans tous les cas, le gouvernement espagnol actuel a vraiment compris cette problématique et est prêt à investir massivement dans la transition énergétique, ce qui est en fait un modèle un petit peu en Europe, qui est en fait parmi les pays les plus ambitieux en Europe sur la question du climat.
Alors j'avais vu, ça c'était du côté de la Catalogne et de Barcelone en particulier, que toutes les nouvelles habitations neuves avaient obligation d'avoir de l'eau chaude thermique. Parce qu'évidemment le soleil est là, il est extrêmement présent. Est-ce que ça c'est valable aussi sur toute l'Espagne ou bien c'est uniquement en Catalogne, c'est-à-dire que où on impose aux constructeurs d'avoir de l'eau chaude solaire?
Il me semble que c'est uniquement en Catalogne, mais j'en suis pas vraiment certain. Mais dans tous les cas, ça fait partie des solutions pour la transition, surtout dans un pays comme l'Espagne où on a vraiment besoin que le chauffage, que l'électricité proviennent des énergies renouvelables, parce que le potentiel, le puits renouvelable en Espagne est massif et vraiment, il peut vraiment exploser. C'est un potentiel énorme. Et si on compare par exemple avec le Portugal l'année dernière a fait 100% d'énergie renouvelable pendant plusieurs mois et vraiment l'Espagne a le même potentiel et pourrait vraiment suivre son voisin portugais là-dessus. Donc toutes les solutions, qu'elles soient au niveau local, au niveau national, sont bonnes à prendre de ce point de vue-là.
Merci à vous et au réseau Action Climat. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Et oui, Nel Makarov, donc, que j'ai enregistré avant-hier, donc, était responsable et responsable des politiques européennes au sein du réseau Action Climat. Donc, la Suède, l'Espagne. Évidemment qu'on peut dire des tas de choses. On n'a pas parlé de biodiversité cette fois-ci, mais on continuera. Donc, ce voyage européen, ça ne vous a pas échappé. L'Europe est quelque chose d'important. Les insectes aussi. Eh oui, eux aussi sont européens. Ils le savent pas. Ils migrent, ils bougent dans tous les sens. On en parle avec François Lasserre dans quelques instants.
Mondos et billets de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Nuées de diamants, poèmes posés sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
À toi qui me vois mignonne, main tendue, genou fange. Ne prends pas garde à ma mise, et sur leurs joues on frange. Jadis ici j'étais reine, et les yeux de ces messieurs sur mon aimable personne se perdaient, cela t'étonne. Laïa laïa, rose trémière et joli cœur, les soirs de première.
Comme si l'on pleuvait.
Nuée de diamants, poème posé sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
La lune mignonne, tout m'était dû par un revers de fortune. Voilà que j'ai tout perdu de mémoire d'un mot d'apôtre qui saurait dire à présent que naguère comme nul autre je fascinais le tout venant. Laïa laïa, mon dos et billets de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour, plus que 10 doigts n'en saurait compter.
Comme si l'on pleuvait.
La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne. Gagne ton ciel et me sois bonne. Ma jouvencelle, ma mignonne. La providence c'est la jeunesse, ne dure jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne, gagne ton ciel et me sois bonne, ma jouvencelle, ma mignonne.
Qu'est-ce que c'est agréable ça, Mayra Andrade, comme s'il en pleuvait, notre capverdienne, donc ça va être une petite fille, on va dire de Césaria Évora, quoi, en gros c'est ça. Oh, des insectes vous en voulez? On v'là.
Et maintenant on va sur la lune, avec un insecte.
Avec un insecte?
Allez, un insecte module.
CO2, mon amour.
L'insecte module, les hommes deviennent fous.
Sur France Inter.
Voilà, ça Hélène Bisio, notre réalisatrice, s'est fait plaisir, elle a eu raison. Donc Louis de Funès, bien sûr, je suis incapable de vous dire de quel film, je suis sûr que là, il y a des gens qui tout de suite le savent, vous pouvez y aller sur un mail, me dire quel film c'était, je l'ai pas. Cher François Lasserre, donc avec nous, je disais insectologue, mais entomologiste, vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement. Le dernier ouvrage qui est très très sympa s'appelle Les super pouvoirs des petites bêtes aux éditions de la Chaux et Niestlé. Alors nous, on avait en fait eu ce rendez-vous avant l'excellent téléphone sonne de Fabienne Sintès jeudi, qui a recommencé très joliment en disant « La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand le pesticide fut venu ». Voilà, moi j'étais très très jaloux de ça. Je sais pas si un homme comme Jean-Henri Fabre, instituteur à Véronais, compteur des insectes, y retrouverait ses carabes aujourd'hui. Alors je sais que la notion d'utilité, lorsqu'on dit « Ah bah oui, un insecte, à quoi ça sert ? » Bon, ça vous met un petit peu hors de vous. Et en même temps, bah, pour accrocher les gens sur ce sujet, hein, l'actualité, on l'a bien vu, c'est une disparition d'une partie des insectes, bah, c'est peut-être aussi une entrée comme une autre.
Ben c'est vrai que c'est plus difficile de vendre un insecte qu'un oiseau ou un mammifère bien poilu, bien joli, qui nous ressemble étrangement. Mais finalement, quand on prend une loupe, un insecte nous ressemble aussi pas mal, c'est un petit animal. Et mais bon, il faut quand même faire la démarche. Alors, il faut surtout faire la démarche d'aller avec quelqu'un sur le terrain, oui. Faire une animation nature autour des insectes, aller avec un entomologiste ou un amoureux des bestioles, et prendre sa loupe, prendre le temps de les regarder tous un par un et de découvrir cette diversité complètement folle qui y a autour de nous. Et du coup, si on n'a pas fait cette démarche, c'est vrai que l'insecte, ben on garde l'image des quelques espèces qui nous embêtent, mais en fait elles sont très peu nombreuses. Et c'est vrai qu'il y en a qui nous embêtent, évidemment, comme par exemple les moustiques ou quelques guêpes qui s'approchent de trop près, mais j'espère qu'on en reparlera.
Mais s'il n'y a pas de moustiques, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'oiseaux.
Alors justement, du coup, avant d'en aller vers l'émotionnel et de se tourner vers cette sensibilité que nous on a et de la transmettre, on est bien obligé de parler parfois d'utilité. Et donc, évidemment, les insectes sont un peu les artisans de l'ombre. Ils ont une diversité complètement incroyable. Ils sont extrêmement nombreux en quantité d'individus, encore à ce jour, même si ça diminue. Et du coup, ils ont ce qu'on appelle des rôles. C'est pas tout à fait juste, mais bon, des fonctions dans les écosystèmes, dont la pollinisation des fleurs en fruits, le recyclage des déchets organiques qui tombent au sol.
Ami Bousier, si vous nous écoutez, merci à vous.
Voilà, une crotte est un déchet, et c'est vrai qu'elles mettent un temps fou, s'il n'y a pas d'insectes, elles vont mettre un temps fou à disparaître entre les champignons et les bactéries, mais ça prend beaucoup plus de temps. On dit aussi qu'il fertilise évidemment le sol, évidemment, je dis évidemment parce que quand on fait une animation encore, quand on va avec un écologue ou un amoureux de la nature creuser dans le sol et qu'on prend une loupe, on se rend compte qu'il y a plus d'habitants dans une forêt sous notre pas que d'habitants en Suisse. Donc il y a une faune absolument incroyable et tous bossent presque gratuitement pour rendre nos sols fertiles. Et puis une autre utilité, alors ça elle me plaît un peu moins, c'est qu'ils servent à nourrir un tas de bestioles. Un tas d'animaux, notamment les oiseaux, et tous ces petits oiseaux chanteurs qu'on entend l'été ou au printemps mangent des insectes au moins une grande partie de leur vie.
Alors François Lasserre, on a écouté Christian Coloumi qui nous parlait des animaux sous la neige ou sur la neige, donc en hiver. Où en sommes-nous? Parce qu'il y a ceux qui ont hiverné, il y a ceux qui sont sous forme de quoi? D'œufs, de lymphes. Alors on va pas tous les passer en vue, parce que c'est pas possible. Il y en a plusieurs millions, donc on va pas y arriver.
Mais... Alors c'est difficile, et puis il y a tous les cas de figure. Il y en a qui sont partis en Afrique, il y en a qui sont sous forme d'œufs, d'autres sous forme de larves, d'enfants, d'autres sous forme de nymphes, le moment de la métamorphose. Et puis il y en a qui arrivent à hiverner, enfin qui hivernent sous le stade adulte. Parce qu'en fait l'hiver, terre, dans les climats tempérés, il n'y a pas grand-chose à manger. Donc du coup, ces animaux ont évolué sur une forme de veille. Ça s'appelle la diapause. Ils se mettent en veille complètement. Et ceux qui veillent sous leur forme adulte sont donc les premiers à émerger dès qu'il fait un peu beau, dès qu'il y a un peu de chaleur. Et donc, c'est les premiers insectes qu'on va voir à la sortie de l'hiver sont généralement ceux qui ont hiverné au stade adulte. Donc, il peut y avoir des papillons qui sont cachés dans une touffe de feuilles au fond du jardin qu'on n'avait absolument pas aperçu, comme par exemple le papillon citron, qui, une fois les ailes refermées, ressemble comme deux gouttes d'eau avec des nervures à des feuilles vertes. Et donc, il était caché, et puis ça y est, il fait beau, il ressort.
Le pan du jour, c'est pareil aussi.
Le pan du jour qui était caché dans,
lichens, je sais pas,
voilà, il était caché dans le grenier ou dans la cabane de jardin. Parce que, en fermant ses ailes, du coup, il ressemble à du lichen, et du coup, on le voit plus. Et puis, dès qu'il fait beau, et il ressort, il est prêt à fonctionner. Parce que les œufs, les larves et les nymphes n'ont pas d'ailes, donc c'est pour ça qu'on va pas les remarquer.
Et puis, vous avez, il y a cette obsession, comme vous le disiez, du chez nous. Il est bien de chez nous, celui-là, hein. Voilà. Alors, et en fait, on se trompe assez souvent parce qu'il y a des papillons qui viennent d'Afrique, qui viennent du Maroc et qui viennent bouffer nos plantes.
Exactement, de chez nous. Oui. Alors ça, j'adore ce sujet. En fait, on le sait peu, mais il y a beaucoup, beaucoup d'insectes migrateurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espèces, pas que chez les papillons. Alors, il y a les papillons et pas que chez les papillons. Donc, tous les ans, au début du printemps, il y a plein de papillons que vous voyez, comme le vulcain. Alors, j'invite à aller chercher une image de vulcain ou la belle dame. Et ben, ces papillons sont nés en Afrique. Et ils arrivent, ils migrent, et ils sont nés en Afrique et viennent manger nos plantes de chez nous. Et du coup, j'aime bien demander aux gens, alors ce papillon-là, il est de chez nous, il est pas de chez nous? Parce que vous savez, il y a une espèce d'obsession régionale avec la biodiversité. Et évidemment, ils ne sont pas de chez nous. En plus, c'est pas migré comme les oiseaux, c'est-à-dire que c'est pas le même individu qui fait l'aller et le retour. Ils font l'aller, ils meurent, ils se reproduisent, et c'est les descendants qui repartent, parfois les arrière-petits-enfants. Mais quand même, certains individus peuvent faire 5000 kilomètres.
Alors François Lasserre, évidemment, des insectes ont inspiré les architectes, on le sait, les arches ogivales des termitières, les alvéoles des ruches avec une économie d'espace, c'est une prouesse mathématique avant l'heure. J'ai envie de vous poser une question, parce que ça je l'avais mis sur Twitter, sur le chez-sous. Les guêpes ont inventé le papier?
Oui, cette grosse boule là qui fait tant peur et dont il faut éviter de s'approcher évidemment quand il y a quelques gardiennes à l'extérieur, ben elle est faite de papier mâché. En fait, le nid de ces guêpes sociales, cette grosse boule que vous voyez, ou parfois les alvéoles seules des guêpes polistes qui n'enferment pas les alvéoles dans une boule, c'est fait avec du papier. Les guêpes, depuis bien longtemps, bien avant les hommes, sont allées rogner des morceaux de bois, de la cellulose, la mélange avec une espèce de salive, et ensuite chaque ouvrière va étaler sa petite feuille de papier. Et quand vous regardez un nid de guêpe de près, vous voyez que chaque petit trait de couleurs différentes, parce que ce sont des essences d'arbres différentes, est une petite feuille de papier mâché étalée par une ouvrière.
Alors, des histoires, vous en avez plein. Les super pouvoirs des petites bêtes aux éditions Delachaux et Niestlé. Et alors, là, je ne vais pas essayer de faire une passerelle, mais on reste quand même dans l'environnement. Parce qu'il y a des gens, moi, que j'aime beaucoup, c'est Chansons Plus Biofluorés. Et alors, si vous êtes bricoleur, il faut revenir au bon sens. Utilisez donc des outils, mais sans électricité.
Il était une fois dans un bricorama, près des tubes de graisse, exposé nuit et jour, au rayon gaz et four, un bel outil d'amour. Un jour, monsieur Jean-Paul, un as de la bricole, cherchant un truc qui perce, au détour d'un couloir, découvrit par hasard cet engin de bazar. Grosse chignon, Seigneur de mes amours, tous les murs tu perceras, rien qu'à la force des bras, bois et béton tu pénètres. Grosse chignole de mes amours, pas besoin de branchement ni de prise de courant, écolo avant la lettre. Tu fais vibrer mon être. Je t'aime, oh ma jolie chignole.
Oh.
Eh oui, oui, bah oui, c'est un grand moment aussi de chansons écologiques. Donc, moi j'aime bien cette parodie, grosse chignole de mes amours. Chanson plus effleurée, je vous en parle parce qu'ils sont jusqu'au 10 mars, ils sont au théâtre La Bruyère, c'est au métro Saint-Georges, donc c'est à Paris. Ne les manquez pas parce que ils ont tout un spectacle très bien. Chanson plus effleurée, passe à table et on distillera quand même un certain nombre de choses. Merci encore à vous, hein, François Lasserre.
Merci Denis.
Vous saluerez donc vos merveilleux insectes.
Avec plaisir.
Ceux qui sont sortis, puis bah, les autres aussi qui sortent tranquillement. Merci à Guillaume Roux, à la technique, à Elisa Mchin avec qui on a préparé cette émission, Hélène Bizio qui l'a réalisée, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Et alors la semaine prochaine, l'eau, comment ça marche, comment ça coule. Eh ouais, donc parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas trop. Robinet, bah non, il n'y a pas que ça. 01 56 40 40 35, c'est le numéro du répondeur. On en a sous le coude, on va pouvoir les passer, je pense, la semaine prochaine. Rediffusion entre 5h et 6h du matin, le podcast. L'édito, si vous le souhaitez, vous le retrouvez aussi sur le Twitter, hein, le Twitter sur Chez Sous, simplement. Et puis, là, tu lus, mon petit loup, ce sera 19h54, après les petits bateaux.